Bonjour à tous, bonjour Marie-André, bonjour Lucie, bonjour la belle-mère, bonjour Sampa Wende, Wenening Barka, bonjour Marie-Marthe. Donc, désolé du petit retard, je suis arrivé à la maison 3 minutes avant d'entrer en onde. Petit détour sur la rive sud de Montréal ce matin, imprévu totalement, le résultat d'une section d'autoroute fermée et d'une panne, je crois, dans la voie de contournement. Donc le chemin le plus court pour me rendre au centre-ville était de passer par Châteauguay-Kanawake, ceux de la région de Montréal, vous comprenez. Donc j'ai dû faire un aller-retour sur le pont Louis-Honoré Mercier, ou en tout cas sur le pont Mercier. Mais bon, je suis arrivé ici 3 minutes avant la diffusion et j'avais déjà monté tout le système, donc j'avais pris un peu d'avance. Alors bon congé pascal à tous, on est le vendredi 15 avril, il fait environ 8 degrés à l'extérieur et il y a un beau soleil. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bonjour Claude, bonjour Derna, bonjour Déborah, bonjour Léa, bonjour Marcus, bonjour à mon père et à ma mère, bonjour à Janine, merci Lucie, soyez bénis vous aussi, et si vous voyez Lynn, vous lui transmettez nos salutations. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Alors, j'espère que vous avez été nombreux. J'ai pas pu voir combien de personnes s'étaient branchées, mais j'espère que vous avez apprécié la petite rencontre d'hier soir. Il y avait quelques problèmes techniques. Là aussi, on a réglé tout ça à la dernière minute. Problème d'informatique, de changement de réseau. Internet pour l'église à la dernière minute. Donc j'espère que vous avez... Et ça a chamboulé un peu tout ce qui devait se passer. Donc en tout cas tout ce que j'avais prévu. Donc j'espère que vous avez tout de même apprécié ce temps où on a pu prendre la Sainte Cène tous ensemble. Bonjour Marie-Huguette. Merci Janine. Bonjour à la mère supérieure. C'est le nom que avec lequel j'affuble ma mère affectueusement. Bonjour Guy, bon vendredi Pascal à toi aussi. Alors pour tous, si vous êtes dans l'ouest de l'île et vous devez vous rendre au centre-ville, évitez la 20. À l'échangeur Saint-Pierre, c'est fermé. Et s'il y a une panne dans la voie de contournement qui passe par la 138, vous êtes bloqué terriblement et le plus rapide devient alors de passer par Kanawake. Donc, éviter ça pour jusqu'à mardi, c'est bloqué. Donc, éviter ce secteur-là de l'échangeur Saint-Pierre, la 20 direction est. Mon ami Jacques, que Dieu te bénisse. Bonjour à madame et à bébé. Encore quelques minutes avant qu'on débute. Environ 4 ou 5 minutes. Bonjour la belle-mère. Mi compadre Edwin, que Dios me lo bendiga, me le bendiga, y a su esposa también. María Gabriela Pontigo, que Dios te bendiga, hermana. Mucho gusto verla esta mañana. Donc, ceux qui n'auraient pas suivi la Sainte-Seine hier soir, bien entendu, c'est toujours affiché sur notre page Facebook. Je vois des visages que je ne vois pas habituellement, qui sont assurément en journée fériée aujourd'hui. Alors, bienvenue à vous tous. Et puis, ceux que je ne vois pas, qui sont sur la page interne, depuis la page internet de l'Église ou qui se connectent via les moteurs de recherche, on vous salue très chaleureusement. Bienvenue parmi nous ce matin. Content que vous soyez là. Pascal, bonjour. On a un deuxième rendez-vous aujourd'hui à 19h. Ça va être notre temps de prière et d'intercession. Et on va passer un peu plus de temps dans la question de la Pâque, puisque c'est quand même ce qu'on appelle aujourd'hui, bon, la tradition l'appelle le Vendredi Saint, je l'appelle plutôt Vendredi Pascal, mais puisque c'est le week-end de Pâques, donc ce soir on va avoir une petite orientation particulière concernant cette thématique. Mais c'est toujours une soirée de prière et d'intercession. Donc on vous invite à être là dès 19h et c'est strictement sur la page Facebook de l'Église. Donc ne nous cherchez pas sur YouTube, sur Zoom ou autre. Le vendredi soir, c'est strictement sur la page Facebook. Merci Pascal. Bonjour Bernadette. Petit chat dans la gorge. Plusieurs ont un long week-end jusqu'à mardi matin. On vous rappelle aussi les rendez-vous de ce week-end. Donc, dimanche matin, bien entendu, notre culte de célébration, c'est ce qu'on appelle le jour de la résurrection, le dimanche de la résurrection. On vous invite à être sur place à l'église dès 10h, mais si vous habitez trop loin, si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre jusqu'à l'église, bien sûr, on diffusera comme d'habitude sur toutes nos pages internet ou sur toutes nos plateformes internet plutôt, mais c'est toujours mieux directement sur place. Donc on vous invite à être nombreux. La seule petite restriction qu'il y a qui perdure, c'est la question du masque, du port du masque, mais à part ça, vous êtes tous les bienvenus. Plus de restrictions d'âge depuis déjà plus d'un mois. Il y a même des classes pour l'école du dimanche, de 0 à 15 ans. Donc, on espère que vous serez là nombreux ce dimanche. Est-ce que j'ai salué Denise de Laval? Je sais pas, je suis pas sûr. Donc, si je vous ai déjà salué, je vous resalue. Sinon, recevez une première salutation de notre part. Bonjour Louise, bonjour Michel. Bonjour à Jacques, s'il est avec vous. Je regarde sur le côté parce que c'est là où j'ai mon téléphone et c'est là où je vois les gens qui se connectent. Sur l'ordinateur devant moi, je ne vois que les commentaires qui sont affichés, mais ici on m'indique les gens qui se connectent. Du moins qui se connectent via Facebook. Alors on va prier et on va commencer. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Un temps que tu avais prévu, planifié, pensé, préparé pour nous. Un moment, Seigneur, préparé de toute éternité, pensé de toute éternité, à travers lequel tu voulais nous communiquer ton cœur, ta vision, ta pensée, ton espérance pour chacun d'entre nous. Alors nous prions, Seigneur, d'être des vases qui se sont dépouillés d'eux-mêmes, qui se sont vidés de tout ce qu'ils avaient pour recevoir pleinement la bénédiction, cette grâce que tu as pour nous, cette parole que tu as pour tes enfants ce matin. Alors que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Bénis-nous, visite-nous, parle-nous, touche-nous, transforme-nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue en ce vendredi 15 avril. On appelle le vendredi de Pâques ou le vendredi saint. On est content de vous avoir avec nous. On vous rappelle que ce soir, on a une deuxième rencontre à 19h et là, on parlera un peu plus de Pâques où on mettra un accent plus particulier concernant Pâques. Pour ce matin, on va continuer notre étude et probablement la terminer. Notre étude qu'on a débutée dimanche dernier et durant toute la semaine, on a tout simplement repris ces mêmes thématiques en essayant d'expliquer peut-être un peu plus lentement l'ensemble des points énumérés dimanche. Alors, si vous entendez des bruits saugrenus, ce n'est pas mon ventre, c'est Néma qui est en train de jouer avec son jouet et puis il pourrait faire quelques bruits incongrus. Alors, je lis pour vous dans Exode au chapitre 3, du verset 1 à 6. Exode 3, du verset 1 à 6, la Bible nous dit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. On reprend les deux derniers versets, le verset 5 et le verset 6. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. On a déjà vu 4, 8 points depuis lundi. Et c'était des points qui étaient propres à chacun des versets. Dans le verset 1, on a souligné que cette expérience de la présence de Dieu, parce que la thématique... Parce que la thématique de cette semaine, c'est expérimenter la présence de Dieu. Au-delà de savoir que cette présence nous environne, on tenait cette semaine à parler sur le fait de comment profiter, comment rendre profitable pour notre vie, d'expérimenter profondément intimité et présence de Dieu. Donc lundi, on a vu tout d'abord que c'était une expérience solitaire, c'était une expérience individuelle. Ce n'est pas parce qu'on est marié que un des deux conjoints expérimente la présence de Dieu que l'autre l'expérimente pour autant. C'est pas parce que nos parents vont à l'église et sont des chrétiens dévoués et qu'ils ont une intimité avec Dieu que nous, en tant qu'enfants, on expérimente pour autant la présence de Dieu. Inversement, ce n'est pas parce que nos enfants pourraient s'approcher de Dieu qu'en tant que parents de ses enfants, on expérimenterait la présence de Dieu. C'est une expérience solitaire. Parfois, oui, ça arrive en groupe, dans le sens où on se présente à l'église dimanche matin, et effectivement, on a accès à une intimité avec le Seigneur, on a accès à expérimenter de façon toute particulière la merveilleuse présence de Dieu. Au-delà de savoir qu'elle est là, on peut effectivement en tirer pleinement bénéfice, mais encore là, même si nous sommes tous réunis et que nous recevons tous, ça reste une expérience personnelle. Et chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, on va l'exprimer, on va la commenter, on va aussi en faire l'expérience d'une façon tout à fait individuelle. Ce que je ressentirai dimanche, ce n'est pas la même chose que mon ami, mon frère, ma sœur pourraient expérimenter et faire sienne. Donc, premier point qu'on a vu, c'était que c'était une expérience solitaire. Deuxième point, c'est que c'était une expérience où le temps s'arrête. Quand on rentre vraiment dans la présence de Dieu, la notion du temps s'arrête. Ça pourrait être simplement une seconde en sa présence, et ce serait mieux qu'une journée complète à chanter, à taper des mains et puis à danser. Le psalmiste va dire adéquatement et de façon très expressive, mieux vaut un jour dans ta présence que mille ailleurs. Donc, il est en train de dire, on pourrait expérimenter ta présence de façon banale ou de façon régulière, mais lorsqu'on l'expérimente de façon intime, mieux vaut cette intimité d'un jour que mille journées passées dans les plus beaux palais et dans les plus belles contrées. Le troisième point qu'on a vu, point 3, 4 et 5, on a vu que c'était une expérience à découvrir. Moïse va devoir se détourner pour découvrir quelle était l'histoire avec le buisson ardent. C'est une expérience qu'il nous faut aussi chercher. La Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, non seulement ce n'est pas quelque chose d'inné, donc on doit découvrir la présence de Dieu, mais de surcroît à ça, on doit chercher la présence de Dieu. Et une fois effectivement qu'on expérimente la présence de Dieu, c'est une expérience qui change les priorités. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père et il a laissé de côté le troupeau pour s'engager et puis pour chercher quelle était cette merveilleuse vision qu'il avait de ce buisson qui brûlait sans se consumer. Hier, on a vu quatre points. On a vu que c'était une expérience où Dieu se laisse trouver. Lorsque le Seigneur a vu que Moïse se détournait, à ce moment-là, le Seigneur l'a appelé. Donc, c'est une expérience dans laquelle le Seigneur nous permet de le découvrir et de le trouver à d'autres niveaux que strictement l'enseignement, la prédication qu'on pourrait entendre. Donc, une expérience où Dieu se laisse trouver, une expérience personnalisée. On se rend compte que Dieu va dire à l'homme de Dieu, à son interlocuteur, « Moïse, Moïse », il l'appelle par son nom. Il va lui dire des choses très personnelles. Donc, l'expérience de Dieu est non seulement un endroit où Dieu va, oui, s'adresser parfois à l'ensemble de son peuple, mais un endroit où il veut aussi parler en tête à tête avec chacun d'entre nous sur des sujets qui sont propres à chacun d'entre nous. C'est à ce moment-là que Dieu nous dit, voici ce qui me plaît chez toi, voici ce qui me déplaît chez toi, voici ce qui m'honore dans ta vie, voici ce qui n'honore pas mon nom dans les choses que tu fais ou dans la façon d'être que tu as. C'est une expérience aussi pour celui qui a été gracié. On se rappelle que Moïse veut dire non pas celui qui est rescapé des eaux comme plusieurs le prétendent, mais Moïse veut dire noyé. Donc Dieu est en train de rappeler d'où il est allé chercher Moïse et de quoi il a épargné Moïse. Et à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, on doit s'approcher avec cette humilité de celui qui n'a pas de droit logique, de droit inné à être dans la présence de Dieu. Se rappeler toujours que si nous pénétrons dans la présence de Dieu, si nous avons accès à sa personne, c'est une grâce. Parce que logiquement, vous et moi qui sommes pécheurs, nous étions condamnés, condamnables à juste titre, et nous étions séparés de Dieu. Mais Dieu nous accorde la grâce qui nous permet, pour le pécheur repentant et le pécheur racheté, qui permet à celui-ci d'entrer en libre communion avec Dieu. Donc une expérience pour celui qui a été gracié, et enfin une expérience pour celui qui s'y offre. Moïse va dire, lorsque Dieu l'appelle, il dit « Moïse, Moïse ». Celui-ci va se tourner vers le Seigneur et va lui répondre de façon spontanée « Me voici ». Et « me voici » veut dire « je me donne à toi, je m'abandonne à toi, prends-moi, saisis-moi, emporte-moi ». Donc une expérience de la présence de Dieu qui nous amène non pas à rester sur nos acquis, non pas à rester sur nos droits par rapport à notre vie, mais une expérience qui nous amène encore davantage dans l'abandon à Dieu, dans la soumission à Dieu et dans le don de soi pour Dieu et envers Dieu. Et là, on passe au verset 5, que je relis après ce résumé de quelques minutes. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Première chose qui nous vient à l'esprit. Moïse est interpellé par Dieu et Dieu lui dit, je prends une gorgée. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le terrain sur lequel tu es, c'est un lieu qui est saint. Dieu est pur et ceux qui l'approchent doivent partager cette pureté. Dieu est saint et ceux qui l'approchent doivent passer par ce processus de purification et de sanctification. La Bible nous dit, le psalmiste, le roi David va nous dire qu'il s'approchera à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains pures, les lèvres pures, qui a un cœur innocent. Donc celui qui a été sanctifié et gracié. On ne s'approche pas à Dieu sans avoir été sanctifié. Ici, je ne parle pas du salut. On ne parle pas du salut aujourd'hui. Ici, lorsqu'on parle du salut, on parle de quelqu'un qui est pécheur et qui va s'approcher de Dieu pour son salut. Et initialement, effectivement, on s'approche de lui avec nos iniquités, avec nos malversations, et il nous purifie. Ici, on parle d'expérimenter la présence de Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Donc, pour expérimenter la présence de Dieu, faut-il encore que notre vie soit sanctifiée? Faut-il encore que l'on vive une vie de sanctification? Plusieurs personnes viennent parfois me voir en me disant, Florent, je voudrais y croire, je voudrais expérimenter le Seigneur, mais il ne se passe rien. Et ma première question, c'est, es-tu en règle avec Dieu? Et les gens souvent inversent la dynamique. C'est comme si le jour où Dieu va se manifester, à ce moment-là, parce qu'il s'est manifesté, je me sanctifierai. Mais d'ici qu'il se sanctifie, alors je continue à vivre comme je veux. C'est pas nous qui dictons comment on s'approche de Dieu. C'est Dieu qui dicte comment on s'approche de lui. C'est Dieu qui dicte ce qu'on fait avec sa personne. Ce n'est pas nous qui dominons sur sa personne et qui disons, « Seigneur, tu vas devoir nous accepter tel qu'on est, puis dans l'état où je me présente, fais ce que tu as à faire, et après ça, quand j'aurai expérimenté ta présence et je serai tout ébahi et tout émerveillé, à ce moment-là, assurément, je deviendrai saint, assurément, par la suite, je me sanctifierai. Non, celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut expérimenter la présence de Dieu de façon intime, de façon personnelle et personnalisée, doit passer par ce processus de sanctification. Alors la question pour toi et pour moi, c'est si nous plaignons de ne pas expérimenter pleinement la présence de Dieu, si on est insatisfait de notre relation avec le Seigneur et de notre intimité avec Dieu. La première problématique à régler est souvent une question de sanctification. Suis-je en règle devant Dieu? Mes mains sont-elles propres? Mes lèvres sont-elles propres? Mes pensées, est-ce que je veille à les sanctifier? Est-ce que mes pratiques honorent Dieu? Donc, est-ce que je vis dans une vie de sanctification? Et regardez, je n'ai pas dit dans une vie de sainteté, mais dans une vie de sanctification. Parce que, étant un pécheur, dans ma nature, je reste enclin au péché. Alors, l'idée, c'est que je suis encore aujourd'hui dans ce processus de sanctification qui prendra toute son ampleur et qui atteindra son apogée lorsque nous serons dans la présence éternelle de Christ, de l'autre côté de l'éternité, lorsque notre corps aura été régénéré et lorsque nous ne serons plus de cette nature pécheresse. Mais tant que je suis ici, de ce côté-là de l'éternité, je reste d'une nature pécheresse et voilà pourquoi je dois mener une vie de sanctification, une vie où je cherche à être sanctifié, une vie où je veille à mes pas pour, dès qu'il y a iniquité, aller chercher la face de Dieu pour être purifié. Donc, un premier point aujourd'hui, c'est une expérience qui impose la sanctification. Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas, parce que le terrain sur lequel tu es est un terrain saint. Donc, on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. L'autre point qui est intéressant est que parfois, on passe outre parce qu'on ne connaît pas nécessairement les pratiques et les us ou les coutumes du Proche-Orient, particulièrement à l'époque. Ici, le Seigneur est en train de dire à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Ôte les souliers de tes pieds. Dans la société juive, tout le monde, et dans la société du Proche-Orient, tout le monde portait des sandales. Okay, on s'entend, ce n'était pas des terrains qui étaient verdoyants d'herbe ou de gazon, comme on peut avoir dans nos maisons de banlieue avec un petit lopin de terre qu'on engraisse à chaque année, qu'on fertilise à chaque année, qu'on tond, qu'on arrose comme il faut. Israël est dans un endroit qui est assez désertique. Donc, quand on sort de la banlieue, on tombe tout de suite dans un terrain assez aride. Donc, dans la région, c'était de coutume de toujours porter des souliers, des sandales. Les seules personnes qui se déchaussaient étaient une personne qu'on appelait avec un titre tout particulier, qui était un esclave. Et on voit cette image qui nous est donnée tant dans l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Lorsqu'on va parler de quelqu'un qui est rétabli dans ses droits, on va souvent faire un pacte avec un soulier. Le soulier voulait dire je me soumets à cette personne ou cette personne a droit sur moi. En enlevant sa chaussure, notre droit était donné à l'autre. On le voit particulièrement dans le pacte que Boaz va faire pour obtenir le droit de rachat sur Ruth, qui va devenir son épouse. Il va voir le premier individu qui a droit de rachat sur Ruth. Il fait il marchande avec lui. Il fait la négociation plutôt. Et ce dernier dit à Boaz, bon, je ne suis pas prêt à racheter Ruth. À ce moment-là, il enlève son soulier et donne son soulier à Boaz et qui dit, alors je soumets mon droit à ta personne. On le voit plus encore adéquatement dans le Nouveau Testament lorsque Jésus va nous parler de la parabole du fils prodigue. Un détail encore là qui nous est obscur. Quand il revient vers la maison, après avoir dilapidé tout son argent, certains pensent il a tout vendu, il a tout brûlé, mais il reste un citoyen normal, simplement fauché complètement, sans le sou, et il rentre à la maison un peu comme un SDF. C'est pire que ça. La Bible nous dit que lorsqu'il arrive à la maison, le père va non seulement mettre un manteau sur lui, le père va remettre un anneau à son doigt. C'est un anneau dans lequel il y avait l'effigie de la famille, le sigle de la famille ou le sceau de la famille qui rétablit donc l'autorité. Mais un détail qu'on oublie, le père remet des sandales aux pieds de son fils. Et là, ça nous montre que le fils prodigue, lorsqu'il a fini de tout dilapider son argent, et qu'il est dans le terrain en train de nourrir les pourceaux, et qui dit « Les serviteurs de mon père sont encore mieux traités que moi, alors je quitterai cet endroit, je retournerai vers la maison de mon père, je lui demanderai pardon et je lui demanderai d'être un de ses serviteurs. » En fait, le fils prodigue est en train de dire « Je n'ai plus de souliers, je rentre à la maison, je suis esclave de quelqu'un. » Et le père, lorsqu'il va remettre des souliers aux pieds de son fils, va officialiser le fait qu'il va y avoir une transaction dans laquelle il reprend le droit, la propriété sur son fils. Et ça, ça nous rappelle Jésus. Ça nous rappelle Jésus qui vient nous racheter, qui vient payer le prix pour notre rachat. Nous qui étions quoi? Esclave du péché, du diable et de la mort. Donc ici, lorsque l'Éternel va dire à Moïse « Enlève tes sandales », le point qui nous vient à l'esprit, c'est que le Seigneur, pour une expérience de sa présence intime et riche, c'est une expérience qui impose la soumission. Non seulement ça impose la sanctification, mais ça impose la soumission. Nous ne sommes pas des hommes libres. Nous sommes libres du péché, mais nous sommes maintenant esclaves de Christ. Nous sommes maintenant serviteurs de Christ. Les gens ne veulent pas utiliser le terme esclave parce qu'il y a toute une pensée négative qui est rachetée. On pense à l'esclave comme celui qui est brimé, comme celui qui est maltraité, comme celui qu'on outrage. Et c'est vrai dans tous les cas, hormis quand le maître s'appelle Jésus. Quand le maître s'appelle Jésus, ce maître est parfait, est bon et rempli d'amour. Et ce maître est tellement bon qu'il a décidé que pour ceux qui seraient ses serviteurs, ceux qui seraient ses esclaves, en grec et en hébreu, c'est le même terme. Il n'y a pas de différence entre serviteur et esclave, ni en grec ni en hébreu. Et cette pensée est possible lorsque je regarde le Seigneur et je dis, mais Seigneur, mieux vaut un jour en ta présence, mieux vaut un jour à être ton serviteur ou ton esclave qu'être 1000 jours libre ailleurs. Lorsque ton maître s'appelle Jésus, tu n'as pas à craindre les outrages, tu n'as pas à craindre les sévices, tu n'as pas à craindre la maltraitance. Jésus est celui qui a accepté de mourir pour ton salut. Alors oui, j'utilise le terme esclave pour que ce soit très clair dans l'attitude que nous devons avoir par rapport au Seigneur, mais j'utilise aussi ce terme d'esclave parce que je n'ai pas peur de mon maître. Je n'ai pas peur de qui est Jésus. Je sais qu'il m'aime et qu'il prend soin de nous. Donc une expérience qui impose la sanctification, une expérience qui impose la soumission. Mais de surcroît à cela, lorsque nous nous déclarons serviteurs ou esclaves de Dieu, qu'est-ce que ça impose? Ça impose non seulement qu'il soit au-dessus de nous, puisque nous sommes ses serviteurs, il est donc le maître, mais de surcroît à cela, puisque nous sommes ses serviteurs, nous le servons. Donc à la base même de notre expérience avec Christ, C'est dans l'objectif d'un service de Christ. Il y a des gens qui veulent expérimenter la présence de Dieu tout simplement pour avoir des sensations fortes. Je veux expérimenter parce que c'est exceptionnel, parce que c'est extraordinaire. Ça, c'est des sentiments, c'est des sensations qui passent avec le temps. Lorsque nous expérimentons la présence de Dieu, c'est pas pour avoir des palpitations, c'est pas pour avoir des frissons, c'est pas pour avoir certaines sensations d'adrénaline qu'on n'a pas ailleurs. Non, je veux dire, si tu veux de l'adrénaline, tu vas dans un parc d'amusement l'été et puis tu embarques dans une montagne russe, puis tu vas voir que tu vas avoir des sensations fortes. Tu vas faire de l'alpinisme, tu vas faire du parachute, tu vas avoir des sensations fortes. On ne suit pas Dieu pour avoir des sensations fortes. On suit Dieu pour servir notre Créateur. On suit Dieu parce qu'il nous a créés afin de le servir. On suit Dieu et on rentre dans sa présence pour mieux entendre sa voix, pour être capable d'adéquatement le servir. L'expérience de la présence de Dieu impose le service. Si c'est simplement pour avoir des sensations fortes, c'est une expérience qui est totalement puérile, donc enfantine, et c'est une expérience qui est totalement futile, donc qui a peu de répercussions sur le long terme. Alors, 3 points jusqu'à présent. Une expérience qui impose la sanctification. Enlève tes souliers parce que ce terrain est saint. Donc, si tu t'approches de moi, sanctifie-toi. Une expérience qui impose la soumission. Enlève tes souliers parce que tu deviens mon esclave, mon serviteur, si tu t'approches. Et une expérience qui impose le service. Si effectivement tu enlèves tes souliers et tu t'approches de moi, c'est pour me servir. C'est pour entrer sous les ordres de Jésus, c'est pour entrer au service de Christ. Il n'y a pas un croyant qui est appelé au chômage technique. Il n'y a pas un croyant qui est appelé au Club Med. Il n'y a pas un croyant qui est, et quand je parle de Club Med, je parle de Club Med spirituel. Il n'y a pas un croyant qui est appelé à se tourner les pouces. Tout croyant est appelé à servir Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et si jusqu'à présent tu me dis je ne sers pas Dieu, il y a un problème. Si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans peut-être que tu suis Jésus et que tu ne t'es pas encore mis dans un service actif, il y a un problème. Ce matin, je te le dis, tu ne pourras jamais dire que tu ne le savais pas. Celui qui s'approche de Christ, celui qui veut expérimenter la présence de Dieu, doit être aussi impliqué dans le service. Le verset 6, et on va terminer là-dessus, je me dépêche. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. 2 points importants. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu dit, tu ne me connais pas. C'est notre première rencontre. Voici qui je suis. Ton père t'a parlé de moi. Ton père t'a parlé de ton ancêtre Abraham, de ton patriarche Abraham, de ton patriarche Isaac, de ton patriarche Jacob. Et ce que tu as entendu de moi, me voici maintenant devant toi. Expérimenter la présence de Dieu, c'est aussi une expérience dans laquelle Dieu se fait connaître. On s'entend que pour connaître quelqu'un plus profondément, il faut développer une certaine intimité avec cette personne. Voilà pourquoi il y a différents niveaux de relations qu'on va entretenir avec quelqu'un. Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont que des connaissances. Donc tu as entendu parler d'eux, ils ont entendu parler de toi. Peut-être qu'à l'occasion, vos chemins se sont croisés. Mais ce ne sont que des connaissances. Lorsque la connaissance se fait un peu plus connue, dirons-nous, lorsque une connaissance se fait un peu plus familière, on va parler d'amis. C'est un niveau plus profond. Puis on va parler de personnes qui nous sont intimes. Jésus a rencontré un tas de personnes pendant qu'il faisait son ministère. Mais la majeure partie, comme pour nous tous, des personnes qu'il va rencontrer pendant son ministère ici-bas sur terre, ce sont des connaissances. Puis il va y avoir ses proches, particulièrement les 12, les 120, probablement jusqu'à 500. À un moment donné, la parole de Dieu nous dit. En fait, on parle de 12, de 70, de 120, puis 500. Mais parmi les 12, on se rend compte que Jésus a même une relation plus intime avec certains d'entre eux. La Bible nous dit, dans des passages particuliers, où il va se retirer avec Pierre, avec Jacques, avec André et avec Jean. Donc, même parmi les 12, il y a des gens qui expérimentent la présence de Jésus dans un niveau d'intimité plus profond. Et de toutes les connaissances qu'il a, peu de gens, va-t-on nous dire, voici des gens que Jésus aimait. On l'a vu dernièrement à travers notre étude sur la résurrection de Lazare. La Bible va nous dire que Jésus aimait Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et on ne le dit pas d'autres personnes dans la parole de Dieu ou dans le Nouveau Testament. Ce qui veut donc dire que parmi tous les amis et les connaissances que Jésus avait, Lazare, Marthe et Marie occupaient un point particulier ou un niveau particulier. On se rappelle l'histoire d'Abraham lorsque les anges et que l'ange de l'Éternel s'est présenté devant lui. Les deux anges sont partis pour la destruction de Sodome et Gomorre et Abraham va plaider avec l'ange de l'Éternel pour savoir qu'est-ce qui se passe, que va-t-il se passer, est-ce que tu peux avoir pitié de Sodome et Gomorre. Et Dieu va dire à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que l'Éternel s'apprête à faire? Est-ce qu'Abraham, je peux te cacher ce que je m'apprête à faire? Et la Bible nous dit qu'Abraham était appelé un ami de l'Éternel, donc un intime de l'Éternel, et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Ça veut donc dire qu'Abraham avait cette intimité à travers laquelle Dieu était dans l'obligation de révéler sa pensée à cause de cette amitié, à cause de cette relation d'intimité. Donc c'est un endroit où Dieu s'est fait connaître. L'expérience de la présence de Dieu va nous permettre de mieux connaître Dieu. Je connaissais bien Daphné, je croyais au jour du mariage, mais croyez-moi, j'ai découvert Daphné différemment pendant ces presque 30 ans qu'on a passé ensemble. Et assurément, elle me connaît nettement mieux aujourd'hui que le 20 décembre 1992, lorsqu'on s'est mariés, même si à l'époque, ça faisait 3 ans qu'on se fréquentait. Mais elle sait des choses qui m'embêtent, qu'elle ne connaissait pas à l'époque. Elle sait des choses qui me réjouissent, qu'elle ne connaissait pas à l'époque. Elle sait des choses qui vont m'allumer, qu'elle ne connaissait pas à l'époque, et réciproquement. Donc, j'adapte mon comportement par rapport à Daphné, parce que je la connais mieux aujourd'hui que je ne la connaissais à l'époque. Je fais attention à éviter certaines choses, parce que je sais que ces choses-là pourraient la blesser ou l'offusquer, alors que je ne le savais pas à l'époque. Plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on vient à connaître cette personne. Et l'expérience de la présence de Dieu nous permet de connaître plus intimement, plus adéquatement, plus profondément le Seigneur. Et enfin, Moïse, on nous dit, va se cacher le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. La présence de Dieu ou l'expérimentation de la présence de Dieu devrait susciter la crainte de Dieu. Et je spécifie pour ceux qui nous regardent pour une première fois, le terme crainte de Dieu ou l'expression crainte de Dieu ne nous parle pas de la terreur de Dieu, ne nous parle pas d'être apeuré face à Dieu, d'être dans les tremblements parce que j'ai peur que son châtiment tombe sur moi. Non, la crainte de Dieu ne veut pas dire ça. Crainte de Dieu, c'est une expression qui veut dire un profond et viscéral respect de Dieu. Plus on va connaître Dieu, plus on va être ébahi par Dieu et plus on va respecter Dieu plus on va vénérer Dieu. Et lorsque Moïse va se couvrir le visage, lui qui a enlevé ses chaussures pour honorer le Seigneur, lui qui a veillé à se sanctifier, lui qui a soumis sa vie, lui qui a offert sa vie dans le service, va maintenant se couvrir la tête où il dit « Je me présente devant Dieu en toute humilité ». Cette image-là nous revient dans Ésaïe, je crois, au chapitre 4, lorsqu'on parle des chérubins qui gardaient la présence de Dieu. On se rappelle la description de ces chérubins, de ces archanges. Ils avaient trois paires d'ailes. Une paire d'ailes centrale qui leur permettait de voler et de vaquer au service de Dieu. Une paire qui cachait les pieds, parce que dans la croyance de l'époque et dans les us et les coutumes de l'époque, les pieds étaient ce qui était impur. Et on le voit lorsque le Seigneur dit « Je vais laver les pieds aux disciples » et Pierre refuse, puis il dit « Non Seigneur, j'ai compris, alors tu me laves tout au complet. » Le Seigneur lui dit « Non, non, tu as déjà été sanctifié, c'est simplement les pieds qui accumulent, donc je lave les pieds. » Mais les anges ont donc ces ailes pour cacher les pieds, pour pas que le péché ou l'iniquité qui pourrait avoir s'être collé à leurs pieds déshonore Dieu, donc ils cachent leurs pieds. Ils ont des ailes centrales qui permettent de voler. Et ils ont une troisième paire d'ailes desquelles ils se couvrent le visage pour ne pas regarder Dieu. Dans cette pensée, il y a le fait qu'on ne regarde pas Dieu yeux dans les yeux. On n'est pas d'égal à égal avec Dieu. Donc Moïse, lorsqu'il se couvre la tête, est en train de faire un auto-abaissement ou un abaissement volontaire de sa propre personne. On s'approche du Seigneur avec humilité et avec crainte, avec vénération, avec un profond respect. Nous ne voulons pas manquer de respect envers Dieu. Donc on ne se présente pas à lui de n'importe quelle manière, mais avec respect et avec soumission. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je rappelle simplement rapidement les différents points qu'on a vus cette semaine. Une expérience solitaire, une expérience individuelle, la présence de Dieu, bien sûr. La présence de Dieu est une expérience où le temps s'arrête. La présence de Dieu est une expérience à découvrir, à chercher, et une expérience qui change les priorités. La présence de Dieu est une expérience où Dieu se laisse trouver, est une expérience qui est personnalisée par Dieu pour nous. La présence de Dieu est une expérience pour celui qui se sait et qui demeure gracié, donc sous la grâce de Dieu. La présence de Dieu est une expérience pour celui qui s'y offre, qui se donne à Dieu. La présence de Dieu, et ça on l'a vu ce matin, est une expérience qui impose la sanctification, est une expérience qui impose la soumission, devenir serviteur, esclave de Dieu, est une expérience qui impose le service envers Dieu, est une expérience où Dieu se fait connaître, se laisse connaître et se fait connaître, se fait découvrir, est une expérience finalement qui doit susciter la crainte de Dieu. Plus je le connais, plus je suis ébahi et plus je me sens petit par rapport à lui et plus je veux l'honorer par mes paroles, par mes actions, par mes pensées, par mon mode de vie, par l'ensemble de mon existence. Alors merci Seigneur pour tout ce qu'on a vu cette semaine. Merci pour ta parole. Merci pour chacun des frères et des sœurs qui auront entendu les messages de cette semaine. On te demande d'arroser chacune des paroles qui ont été prononcées avec l'onction de ton esprit, afin, Seigneur, que cette parole, cette semence que tu as implantée en nous puisse croître, éclore, germer et croître jusqu'à porter un fruit pour toi qui te sera pleinement agréable. Permets-nous de vivre dans la sanctification ou d'être interpellés à vivre dans la sanctification. Qu'on soit interpellé à nous soumettre à toi, qu'on soit interpellé quant à te servir si nous ne l'avons pas encore commencé, que nous puissions apprécier et chercher à te connaître à chaque jour davantage dans cette intimité que tu désires avoir avec nous. Et Seigneur, je prie que ce soit à travers nos actions, à travers nos paroles, avec nos pensées ou quelques facettes de notre vie que ce soit, nous voulons, Seigneur, t'honorer et non pas être un sujet de scandale pour toi et pour ton royaume. Alors merci, Seigneur, de nous parler encore tout au long de cette journée. Garde-nous, protège-nous, dirige-nous et permets-nous ce soir de venir te célébrer en ce vendredi de Pâques, en ce vendredi saint, où nous nous rappelons qu'un sauveur nous a été donné, mais le sauveur est mort pour le péché qui était nôtre. Alors merci Seigneur de nous garder tout au long de cette journée et de pouvoir nous ramener ce soir pour te célébrer. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom qui est le tien, le nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle ce soir 19h, heure de Montréal, bien entendu, sur la plateforme Facebook comme ce matin. Un temps de prière, un temps de louange et un temps de recherche de la face de Dieu. Alors d'ici là, passez une bonne journée, reposez-vous, profitez du congé pour ceux qui sont effectivement en journée fériée, et de surcroît, ça, passez du temps dans la présence de Dieu. Vous serez ébahis, émerveillés par qui est votre Seigneur et votre Sauveur. Alors bonne journée à tous, au revoir tout le monde, à tout à l'heure, 19h ce soir.